vont se multiplier.
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas de bruit, t'as pas le d'or.
On est all to vous.
En 25 ans d'émission, je n'ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
C'est lequel?
On est all to vous. Now, go away now.
Allez, action.
Action, pourquoi faire?
Combien de fois on l'a entendu cette question, est-ce que tu crois que ce film c'est pour les enfants? Comme si cette catégorie de public pouvait se réduire à un genre, s'inscrire dans une case. Face à un parent désorienté, on a toujours peur de répondre à côté de cette question finalement existentielle. Ce matin, nous avons trouvé un remède, ou plutôt une centaine de réponses, à cette question. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Un enfant, écrit Olivier Père en introduction de ce livre, un enfant... C'est le meilleur spectateur du monde. Son goût n'est pas encore gâché par les préjugés ou les étiquettes. Bonjour Lydia Boukreyev.
Bonjour.
Bonjour Nicolas Boukreyev.
Bonjour.
Ensemble, vous avez écrit ce livre, ce guide, 100 grands films pour les petits chez Arte Éditions. Un ouvrage précieux, le béaba du petit cinéphile, avec des incontournables, mais aussi des films moins connus ou d'autres pas immédiatement rangés dans cette fameuse catégorie, comme Dersou Uzala ou O Brother, des frères Cohen. Un livre pour guider les adultes qui à leur tour guideront le regard de leurs enfants vers des joies, des émotions ou des chocs esthétiques insoupçonnés. Enfin, les sorties de ce nouveau mercredi de cinéma, dominé par une palme d'or qui, c'est rare, fait l'unanimité, Parasite, du cinéaste coréen Bong Joon-ho. Alors, 100 grands films pour les petits, et si on commençait par la fin?
Капитан! Здравствуй, капитан!
Здравствуй! Здравствуй, Дерсу! Дорогой ты мой!
Bonheur et joie de voir ce film figurer dans ce livre d'Ersu Uzala du cinéaste japonais Akira Kurosawa. C'est l'un des inattendus et qui clôture votre livre 100 grands films pour les petits. Lydia et Nicolas Boukreyev, ce film d'Ersu Uzala, 2h25, une ode à l'amitié entre un ingénieur soviétique et un vieux chasseur de la toundra, et une ode aussi à la toute-puissance de la nature à l'heure d'une grande urgence écologique. Oui, ouvrir le regard des enfants, c'est l'objectif du livre, mais c'est pas le seul.
C'est aussi d'ouvrir le regard des parents,
oui.
Voire de réouvrir le regard des parents, pour certains parents, voire grands-parents, d'assumer certains films qu'ils ont adorés, et qu'ils n'osent peut-être pas montrer à leurs enfants, parce qu'ils ont peur de je sais pas, que le film ait vieilli, ou qu'ils les jugent à la limite comme ringards. Donc oui, c'était l'idée de faire une sorte de petite histoire du cinéma, qui commence au cinéma muet, qui se termine aujourd'hui, et qui permette comme ça de suivre un fil, très librement finalement, à travers toute cette histoire, pour ouvrir en fait les tout-petits, parce que c'est pour les 3-8 ans,
oui.
À la poésie du cinéma, en fait.
Lydia Boukreyev, vous êtes monteuse, Nicolas, vous êtes réalisateur, mais vous êtes tous les deux des cinéphiles et des parents. Vous avez écrit comme des parents.
On a essayé d'écrire comme des parents,
ouais.
Mais surtout comme des cinéphiles, en fait.
En s'efforçant de toujours regarder les films du point de vue des enfants, ce qui était un exercice...
Pas facile.
Mais très émouvant. Parce que finalement, on s'aperçoit que certains films peuvent, auxquels on n'aurait pas pensé de prime abord, comme L'enfance nue de Piala, en fait, vu par des enfants, et je ne vais pas dire qu'on a testé ça sur nos propres enfants, mais ils ont quand même participé à ce livre en tant que spectateurs, et bien L'enfance nue de Piala est un film qui captive les enfants, presque plus que les parents. Parce que finalement, c'est un film qui n'a pas encore la violence et la pureté des films suivants, et qui raconte l'histoire d'un enfant turbulent, mais qui ne fait pas grand chose de, enfin, il fait rien de très grave, et donc,
il y a une identification.
Il y a une identification totale.
Oui, qu'on n'a pas forcément nous comme adultes.
Voilà, nous on regarde un enfant malheureux, en souffrance, mais les enfants sont fascinés par cet enfant qui se permet de faire des bêtises qu'eux n'oseraient pas faire. Donc ça crée quelque chose d'assez important. Ou La Flûte Enchantée de Bergman, on avait essayé sur les tout-petits. Et en fait, sur un enfant de 5 ans, La Flûte Enchantée est captivant aussi, parce que ce n'est que de la musique. Il y a un prince, une princesse, un dragon, le merveilleux personnage de Papageno, l'Oiseleur. Donc il y a des chemins de traverse que prennent les enfants très facilement. Qui va davantage poser problème aux adultes.
Dersu Uzala, quand même, je disais 2h25. Moi, j'adore ce film, mais c'est pas trop long pour des petits entre 3 et 8.
Eh ben, Dersu Uzala, c'est le dernier. Oui, oui, c'est-à-dire que, comment on ne voulait pas terminer sur un film d'aujourd'hui parce qu'on trouvait ça banal, même si on a essayé d'être chronologique, on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en dernier? Ben, on se dit, on met en dernier le film qu'un enfant de 9 à 12 ans pourrait regarder, s'il a été suffisamment ouvert par tous les films, les 99 films qu'il y a avant, normalement, il doit pouvoir regarder Der Souza.
Qu'est-ce qu'on lui dit avant, alors? Qu'est-ce qu'on lui dit avant de regarder Der Souza, là?
On lui dit, fais attention, c'est peut-être un petit peu long, ça va te paraître un petit peu long, mais laisse-toi bercer par le film, rentre dedans, regarde. Si ça t'ennuie, évidemment, on arrête, parce que c'est quand même le principe, il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit à aucun enfant, mais regarde si ça t'accroche et si ça t'emporte. Mais encore une fois, c'est plus pour les 8-9 ans.
Ce qu'il saura plus tard, cet enfant, c'est que cette histoire merveilleuse derrière cette histoire, c'est que Der Souza était au bord du suicide avant de commencer
ce film.
Kurosawa, pardon. Ouais. Et a été sauvé par ce film et par les Russes qui lui ont proposé ce sujet.
Absolument.
Lydia.
Oui.
On va passer maintenant aux Américains, parce qu'ils ont compris très tôt, les Américains, que le public des enfants est primordial, et notamment un certain Walt Disney. Ce n'est pas Bambi que vous avez choisi. Et Dieu sait, Nicolas Bruyeff, que Bambi a traumatisé, vous aussi d'ailleurs, des générations d'enfants et de futurs cinéastes, la mort de la mère.
Oui.
Oui, ben, c'est-à-dire que Disney, il y avait Blanche-Neige, il y a quelques incontournables. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas échapper à Blanche-Neige, qui est celui d'ailleurs où il a failli se ruiner, qui est le plus abouti en termes de technique, et qui a un équilibre parfait entre le conte pour enfants et le jeu avec la terreur que faisait Disney. Après, ce qu'on faisait, c'est qu'on a mis les 100 films, et puis à chaque fois, on a mis un petit truc en plus. Si vos enfants aimaient, vous pouvez poursuivre.
Une ouverture sur
d'autres films, soit du même metteur en scène, soit de la même thématique, et c'est là qu'on a mis Bambi.
Et vous avez choisi un film qui m'a traumatisé, petite, qui correspond à un petit cauchemar quand même, d'ennui considérable, c'est Fantasia. On écoute la musique. Longue séquence d'animation sur fond de morceaux classiques. Nicolas, pourquoi avoir choisi ce troisième film, donc le Disney après Blanche-Neige et Pinocchio, qui était un film ultra ambitieux pour Disney et qui n'a pas reçu un bon accueil à sa sortie?
Parce que c'est de la même chose. C'est-à-dire, d'abord, Fantasia, c'est un film fragmenté. Donc les enfants peuvent regarder une des parties, s'ennuyer, on peut passer à la suivante. Et parce que c'est le film le plus ambitieux de Disney, c'est son plus grand film d'auteur, on va dire. Et parce que on pensait en regardant le film, quand on regarde ce film, c'est assez marrant parce que d'un coup on s'aperçoit que toute la partie de Stravinsky, par exemple Le Sacre du Printemps, quelque chose nous a dit en le regardant, mais Kubrick a vu ce film petit. Parce que vous prenez cette partie, vous la mettez avant 2001, ça marche complètement. Les tyrannosaures de T-Rex sont peut-être la réminiscence de Petit Spielberg quand il a découvert Fantasia. C'est-à-dire que c'est un film qui, quand il impacte des enfants, quand il les ennuie pas, peut les impacter très puissamment.
Oui. Ou les amener vers la musique, vers l'amour de la musique.
Les amener vers la musique classique, absolument.
Pour chaque film, il y a deux pages, hein, en regard. Et alors, il y a une rubrique finale que moi j'aime beaucoup, qui est blanche, avec un petit crayon devant. Et c'est bien parce que je pense que les parents peuvent mettre là des choses. Enfin, j'imagine que c'est pour ça que vous l'avez fait.
Oui, tout à fait, pour que les enfants puissent aussi s'accaparer cet espace et récupérer la main sur le film et laisser un souvenir, une première trace de cinéphile, en fait.
Peut-être pour les frères et les sœurs suivantes aussi,
voilà,
en disant
fait,
là,
j'ai,
là, il faut le regarder celui-là vraiment. Donc, il y a une volonté vraiment pédagogique et familiale, quoi.
Une première critique presse, finalement. Hein.
Un peu.
Non, en se disant que nous, on aurait adoré à 30 ans, 25 ans, avoir un livre, on aurait écrit nos premières impressions, dicté nos premières impressions sur la découverte des films.
Nul.
Trop bavard.
Trop de musique.
D'autres films américains, mais celui-là est vraiment aussi, pareil, mondialement connu, mais qui a eu beaucoup de succès, c'est Le Magicien d'Oz. Alors, budget faramineux, déficitaire l'année de sa sortie, source d'inspiration. Vous le dites, vous l'écrivez dans ce chapitre pour énormément de gens, pour la littérature, pour la comédie musicale, pour la télé, les jeux vidéo, la musique soul, l'électro, le rap, on écoute un
écoute-moi, si tu savais ce que Miss Gala dit qu'elle voulait qu'on fasse à Toto, elle ira trouver
le chien. Allons, Dorothée, cesse de te tourmenter pour rien, on dirait vraiment que tu cherches à te créer des complications.
Mais c'est
allons,
que...
allons, aide-nous un peu, ça te fera oublier tes soucis, trouve un petit coin où tu seras à l'abri des ennuis.
Trouver un endroit où l'on n'est jamais dans l'ennui. Tu ne crois pas qu'il existe ce pays-là, Toto? Il doit y en avoir un. C'est un pays où les gens ne vont pas par le bateau, ni par le train. C'est loin, bien loin. Plus loin que la lune. Plus loin que l'arc-en-ciel.
Et d'ailleurs, on apprend dans votre livre que cette musique Over the Rainbow serait à l'origine des couleurs arc-en-ciel du drapeau LGBT.
Oui, d'ailleurs, hier soir, j'ai vu un talk show superbe sur qui passe sur HBO, qui passe sur Orange, de Bill Maher, qui est un gars qui fait un talk show absolument formidable et très politique. Et il recevait John Waters. Et je raconte cette anecdote parce qu'elle m'a fait beaucoup rire. Et John Waters raconte que les premières émeutes qu'il y a eu, qui ont marqué la naissance du mouvement protestataire aux États-Unis homosexuel, puisqu'il y a eu un bar qui s'est fait réprimer par la police assez violemment, et cette fois-là, ils se sont révoltés. Et John Waters disait, oui, et comme c'était le jour de la mort de Judy Garland, toutes les queers étaient très, très, très en colère. Voilà, donc c'est plutôt drôle.
Le magicien d'Oz, c'est quoi la puissance phénoménale de ce film à travers les années? Alors, c'est un film qui a eu 12 scénaristes et 5 réalisateurs, incroyable.
Ouais, c'est le prototype même de l'époque où Hollywood fonctionnait bien.
Ouais.
C'est-à-dire qu'arriver à sortir des films qui avaient une personnalité très forte, alors qu'il pouvait y avoir effectivement une pléthore de scénaristes, plusieurs réalisateurs qui étaient virés les uns après les autres. C'est le cas d'Autant Emporte le Vent, hein, qui a aussi 5 réalisateurs. Ouais. Bon, c'est Victor Fleming qui a signé les deux, Autant Emporte le Vent et Magicien d'Oz, mais il n'a pas tout réalisé. Mais Hollywood fonctionnait tellement bien qu'ils arrivaient à faire des films qui avaient une personnalité propre. Ce qui est plus le cas aujourd'hui, je crois. C'est quand on voit les films Marvel, ce sont des films qui n'ont pas une personnalité propre, ils s'enchaînent les uns les autres. Donc c'est cette puissance féerique. Et puis il y a aussi le fait, c'est important pour nous de le mettre, que ce soit un film qui soit plus destiné aux filles.
Oui, tout à fait.
Pourquoi Lydia ?
Pour pouvoir aussi incarner les héroïnes au cinéma, ouais. Parce qu'il y en a un peu moins, évidemment. Et du coup, il a fallu quand même faire un travail d'équilibrage pour que la cinéphilie féminine ne se retrouve pas systématiquement dans un genre masculin. Donc, ce film-là faisait partie des classiques qu'on voulait mettre en avant, mais aussi pour mettre des héroïnes fortes.
C'est pour ça que pour les films de pirates, on a choisi La Flibustière des Antilles. Il y a beaucoup de classiques de films de pirates, mais La Flibustière des Antilles, c'est une héroïne féminine et féministe, on pourrait presque dire, d'avant-garde, et que ça valait plus le coup de mettre ce film-là pour que le film de pirate soit un peu ouvert à une petite fille éventuellement.
Il y a beaucoup de sous-textes psychanalytiques dans Le Magicien d'Oz. D'ailleurs, Jodorowsky en fait des conférences là-dessus. Il y a des symboles partout dans ce film.
Je vous laisse le soin de les décrypter.
Je vais pas le décrypter en entier, mais c'est vrai que il y a plein de choses à raconter derrière ce film-là avec les enfants.
Oui, sans doute, oui, il est porteur de beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant aussi, quand on commence à traverser tout le cinéma comme ça, sous l'angle du film pour enfants, c'est qu'on voit des films rebondir les uns sur les autres. C'est comme... évident que O Brother est une version du Magicien d'Oz, sans Dorothy et le Petit Chien. C'est trois... Vous prenez O Brother, il y en a un qui n'a pas de cœur, qui est George Clooney, puisqu'il a abandonné sa famille. Il y en a un qui n'a pas de courage, qui est Turturro, puisqu'il dénonce ses camarades. Et il y en a un qui n'a pas de cervelle, puisqu'il est capable de croire que un de ses amis est transformé en grenouille. Et ce qui est fascinant, c'est que une fois que vous rentrez là-dessus, ce film tout entièrement ocre, ils sont sur la route jaune du Magicien d'Oz, et à la fin, quand il y a la grande fête du Cuscus Clan, qu'est-ce que chantent tous les gens du Cuscus Clan dans cette espèce de ballet musical incroyable? La chanson des gardes de la sorcière du Magicien d'Oz. Donc c'est très conscient de la part des frères Cohen. Et on a trouvé comme ça plein de films qui rebondissaient, de films que sans doute certains metteurs en scène ont vu enfant, qui les ont marqués, qui ont fait que...
Mais vous dites qu'il faut attendre 3 ans, c'est-à-dire que le Magicien d'Oz c'est 5 ans, et Obrever c'est pour les 8 ans.
C'est pour les 8 ans bien sûr, ouais, parce qu'il y a un peu de violence dedans, etc.
Voilà.
France, zéro de conduite, de Jean Vigo, extrait.
Monté. Le conseil de discipline, n'est-ce pas, a consenti, sous la forte pression de ton professeur, trop bienveillant, vous êtes magnanime, monsieur Vio, a consenti, dis-je, par considération pour ta famille, par bonté pour toi, et à l'occasion de notre chère fête qui sera célébrée demain, à te pardonner. Mais, n'est-ce pas, du reste, tu es venu spontanément, si j'ose dire, me prier d'accepter tes excuses. Qui ne saurait avoir de valeur que formuler en public et devant tous tes camarades. Nous attendons. Eh bien, dis-nous ce que tu veux nous dire. Dis-nous ce que tu as envie de dire, allons.
Monsieur le professeur, je vous dis merde.
Énormément de douleur derrière ce film, de ce Jean Vigo, dont le père a été assassiné, la mère absente, il a passé 8 années lui de pension, et c'est un relent de tout ça, il met tout dans ce film, Nicolas.
Oui, comme bon, la plupart des metteurs en scène qui font des films sur des enfants, en général, racontent quelque chose de leur propre enfance. C'est vrai aussi pour le film de Piala. C'est-à-dire que il est évident que ce petit garçon raconte quelque chose de lui-même.
La lutte anarchiste, de père anarchiste mort en prison, ça rejaillit dans la lutte de ses enfants.
Oui, d'ailleurs, le film a été interdit en France pendant je ne sais plus combien de 10-12 ans, je crois, c'est ça. Alors que c'est un film très innocent et très, très doux. Mais
enfin, faut pas avoir de coussin sous la main quand même, voilà, et d'un coton pour les enfants, parce que oui, là quand même ça peut générer des
choses. Mais c'est vrai que son propos même, le fait de montrer des enfants aussi aussi libres, en tout cas aussi avides de liberté, oui, posait un gros problème à la France de l'époque.
On disait même il y avait un esprit anti-français dans le film, c'est pour ça qu'il a été censuré.
Voilà, ce qu'on voit aujourd'hui paraît absurde.
Lydia Boukreev, comment on fait quand un enfant s'ennuie? On insiste ou
Non, pas du tout. Non, il faut absolument pas le pousser à regarder quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, sinon on va louper l'épisode. Et donc du coup, il vaut mieux lui dire d'essayer de couper à une séquence un peu intéressante, ouais, et un peu pour lui proposer de regarder un autre moment, mais surtout pas le forcer, jamais, non.
Et quand les enfants aiment, ils aiment bien revoir le film à l'infini. Pourquoi?
Oui, en boucle. Je ne sais pas, ils cherchent des réponses, ils découvrent des sillons, ils sont en train de comprendre que le fantastique les intéresse, je ne sais pas, ils font des ponts.
C'est pas idiot d'avoir envie d'avoir du plaisir plusieurs fois en même temps.
Non, pas du
tout. Sur un même objet. C'est pas mal.
On fait ça aussi
mais
adulte.
Mais eux l'assument. Nous adultes, c'est vrai qu'on l'assume moins.
C'est le propre du cinéphile.
Exactement.
Le cinéphile peut voir un film qu'il aime 5, 10, 15 fois. Et un enfant aussi. Ils sont très proches.
Et quand on est cinéphile, est-ce qu'on a envie d'apprendre le cinéma à ses enfants? Pas apprendre, enfin, le faire découvrir chronologiquement, commencer par des muets, l'habituer au noir et blanc, l'amener à la couleur.
Si on commence tôt, je trouve que c'est plus intéressant de commencer par l'histoire du cinéma chronologiquement, parce que le muet s'adapte très très bien aux petits-enfants, parce qu'il n'y a pas de parole, donc déjà ils sont libérés de la parole, et voilà, c'est que du graphisme, des images, des plans-séquences, du rythme, des acteurs, et ça leur parle très très bien.
Des formats courts.
C'est parfait pour l'initiation au noir et blanc.
Et sur la fin d'un muet, Buster Keaton, on peut même mettre de la musique électro, Nicolas Boukreev.
Oui, parce que on s'est préoccupé de tout ce qui pouvait freiner. Ce qui peut freiner le fait qu'un enfant aime, c'est cette espèce d'évidence qu'il faut regarder un film en entier. Or, quand on leur lit des contes le soir avant de dormir, des fois on leur dit « bon, on s'arrête là, on recommencera demain
oui. ».
Donc pour le cinéma, pour un long métrage, on peut faire la même chose. C'est-à-dire quand l'enfant va adorer un film, puis au moment il va commencer à se fatiguer, donc s'ennuyer. Ben, vous arrêtez le film à ce moment-là et vous le reprenez le lendemain. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'était de changer les musiques. Parce qu'effectivement, les musiques des films muets sont souvent un peu rébarbatives. Oui. Elles sont faites un peu n'importe comment. C'est des trucs de piano qui même nous saoulent. Si l'enfant est habitué à vivre dans un environnement où on va écouter du jazz ou de l'électro, ou pourquoi ne pas remplacer des musiques qui de toute façon ont très rarement été faites à l'époque par des musiques qui correspondent à ce qu'il aime? On va dire qu'on va pas mettre du Booba sur un muet de Chaplin.
Oui.
Ça serait un peu poussé, mais on s'est rendu compte que
du rap sur du Keaton.
Sans parler.
Oui, pourquoi pas? On s'est rendu compte que par exemple l'électro sur Buster Keaton, ça fonctionne très très bien, puisque
une mécanique.
Bah oui, il y a quelque chose de mécanique et de très graphique.
Voilà. Il y a eu des rééditions d'ailleurs qui ont été faites pour Méliès avec R, Arfène.
Oui, bien sûr.
Enfin, ça.
Et puis un jour, il faut les faire entrer dans le genre, dans le cinéma de genre, mais le cinéma de genre qui donne des grands messages comme L'homme qui rétrécit.
Scott, j'ai fait couper le téléphone.
Quoi?
J'ai dit que j'avais fait couper le téléphone. Ils vont essayer de nous donner une ligne qui ne soit pas dans l'annuaire.
Qu'est-ce que ça veut dire, essayer?
Eh bien, ils n'ont rien promis. Il y a énormément de demandes pour ce genre de ligne.
Leur as-tu dit que tu es l'épouse de l'incroyable Scott Carey, l'homme qui rétrécit?
Oh, Scott,
mais use de ton influence, Louise. Je suis plus célèbre qu'un grand homme.
Je t'en prie.
Ces journalistes-là, dehors, tu devrais leur raconter l'histoire. Ça alimenterait leur chronique. Quel beau sujet d'article. À moins que je le garde pour mon livre. Oui, j'ai envie de consacrer tout un chapitre au téléphone. Ça fera pour tout le monde un sujet de rigolade.
Oh, Scott, je peux te jurer que personne, pas un instant, n'a songé à se moquer de toi.
Vraiment?
Je te le jure.
Mais c'est pourtant amusant, non? C'est vrai. Regarde-moi, comme c'est drôle, l'enfant qui a l'air d'un homme. Allons, Louise, fais comme les autres, rien bon coup.
À la suite d'une contamination radioactive, un homme donc voit avec effarement son corps diminuer de taille. Vous écrivez, c'est un film de passage, finalement, entre le cinéma qui distrait ou qui enchante et celui qui fait grandir.
Oui, absolument. Mais parce que c'est un film qui est forcément pour les enfants très particulier, puisque le personnage subit l'inverse de ce qu'eux subissent. Eux grandissent et ils voient un personnage qui rapetit sous leurs yeux.
Oui.
Donc c'est très troublant. Et c'est un film qui commence en étant totalement empathique, à la limite du mélodrame, qui se poursuit comme un film d'aventure, très Robinson Crusoe, ouais, avec presque des séquences cauchemardesques, avec une séquence où ils se retrouvent confrontés à une
araignée, terrible.
Et qui se termine sur une ouverture quasiment métaphysique, oui, qui annonce la grande science-fiction qu'on peut davantage aimer quand on est plus grand et adolescent. Donc c'est un film, de ce point de vue-là, c'est un chef-d'œuvre.
Et là aussi, on discute beaucoup avec eux derrière un film comme ça.
Ah ben oui, ou s'ils ont envie de discuter.
Parce que la fin est assez peut-être absconce, hein, la fin.
Ah, complètement, mais s'ils ont envie de discuter, on peut en discuter. Et puis sinon, ils peuvent très bien la percevoir poétiquement, sans avoir forcément envie d'aller vers une réflexion.
C'est un 2001 pour les jeunes, pour les très jeunes.
C'est une ouverture vers de la science-fiction du type 2001 de l'espace, absolument.
Là, on a écouté la VF, alors gros débat, hein, VF-VO. À partir de quel âge il faut montrer des films sous-titrés aux enfants, Lydia ?
Bon, ça dépend un peu des enfants. Il y a des enfants qui sont très à l'aise, oui, avec la lecture, d'autres moins. Donc, en fait, c'est vraiment en fonction. Mais il y a des films où, en fait, les intertitres sont peu nombreux. Et ça permet quand même, justement, quand on fait une chronologie du cinéma, de s'y mettre petit à petit. Dans les Chaplin, il y a des petits intertitres. Enfin, voilà. Et du coup, petit à petit, se mettre à la lecture. Mais ça dépend des enfants. C'est vrai, très variable.
Puis l'intérêt de le faire chronologiquement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils découvrent, même les tout petits, qu'il y a des phrases écrites. C'est ce qui est fou avec cette histoire du cinéma, c'est que ça permet de s'ouvrir à la lecture, ça permet de s'ouvrir en noir et blanc, ça permet au fait qu'une œuvre muette peut exister, ça permet de s'ouvrir à des langues, parce qu'une fois qu'on élargit très largement.
Parce que là on parle de l'anglais, mais ils peuvent écouter du japonais aussi en VO.
C'est-à-dire que c'est pas rien pour un enfant de 8 ans d'entendre du japonais, de l'Afrique, du swahili, de l'italien, du russe, puisqu'on a essayé d'élargir au maximum la planète cinéma. On ne sait pas ce que ça peut donner, mais c'est déjà, c'est une initiation aux langues.
C'est du voyage dans le cinéma.
Outil d'éducation, quoi, en fait. C'est complètement complet, en fait, le cinéma.
C'est pour ça que Lydia, quand elle a eu cette idée, on s'est dit, bah oui, faut être qu'on. On avait du travail, hein, on avait un film à faire, mais on s'est dit quand même, c'est une idée trop importante de passeur, et il n'y a pas de cinéphile qui n'ait pas envie de transmettre. Ça n'existe pas. Un cinéphile qui n'a pas envie de transmettre n'est pas un cinéphile, c'est un radin, je sais pas ce que c'est. Et du coup, on s'est dit, bon, il faut quand même faire ce livre pour cette leçon de se dire, il y a trop de films aujourd'hui. Il y a trop de films qui sortent pour les enfants, c'est trop le désordre. On s'est rendu compte aussi qu'au fil des générations, chacun avait ses films cultes, mais ils ne connaissaient pas les films de la génération d'avant. C'est-à-dire des gens de 25 ans aujourd'hui, oui, ne connaissent pas forcément Babe, un cochon dans la ville. Ils connaissent c'est le film qu'ils ont aimé, eux, il y a 10 ans. Et donc on s'est dit, voilà, si ça permet de faire le tri et puis de faire une espèce de fil, une sorte d'expertise en douceur, faut pas...
Et de donner des playlists pour les vacances un peu différentes que celles des sorties en salle.
Oui. Voilà. Et exclure les Marvel aussi.
On a exclu tout ce qui était série, oui. Star Wars, Marvel, Le Seigneur des Anneaux, c'est un peu trop violent peut-être pour les 3-8 ans, mais en partant du principe d'abord que c'est des films qui n'avaient pas besoin de nous pour se faire connaître, surtout sur des films qui sont tellement inégalement réalisés, après c'est très personnel, mais les Star Wars sont très inégalement réalisés, oui. Il y en a des formidables comme il y en a des assez, de notre point de vue, assez mauvais, donc pourquoi regarder des séries que tout le monde connaît, alors qu'on trouve qu'esthétiquement elles sont pas toujours signées par un seul metteur en scène.
Et vous avez aussi minoré, et c'est très bien, l'animation, par rapport à la représentation qu'on a, animation égale public pour enfants, dont finalement ils ne devraient voir que des films d'animation. Ça c'est souvent un reproche et un défaut, quoi.
Oui, tout à fait, il fallait les réouvrir aux images réelles, voilà. De toute façon, le documentaire, évidemment,
ou western, non, et personne,
tout à fait,
Brio Bravo,
à tous les genres,
à la partie, incroyable.
La partie, par exemple, c'est un bon exemple. C'est un film qu'on ne penserait pas se montrer spontanément à un enfant.
Non,
mais pourtant, Peter Sellers, dans la partie, c'est un enfant.
C'est un enfant.
C'est un enfant qui fait des bêtises et des bêtises et des bêtises. Donc, pour les enfants, voir un personnage adulte faire autant de bêtises et que ce soit le héros, c'est extrêmement libérateur. Et drôle, du coup.
Mais c'est vrai chez Laurel et Hardy, c'est vrai, beaucoup de burlesque.
C'est une leçon de liberté, quoi, aussi.
Tout à fait.
Un film culte, une adaptation du conte de Perrault à la sauce Jacques Demy Podane.
Que d'éclat. Je n'ai jamais rien vu de si radieux. Que vous êtes belle, ma fille. Êtes-vous contente?
Je le suis, mon père.
Je suis comblée. Est-ce là votre dernière demande? Ou bien avant notre mariage, avez-vous encore un désir que je puisse satisfaire?
Oui, mon père, mais j'hésite.
Dites toujours.
J'aimerais la peau de ce vieil âne qui s'ennuie tant, je crois, dans vos écuries.
Mon âne banquier!
Oui, mon père.
Voilà une bien étrange demande qui m'étonne de votre part. Il faudra que quelqu'un vous ait suggéré cette monstruosité. Votre marraine l'a fait, probablement. Il me déteste tant depuis que...
Depuis quand, mon père?
sans importance. D'ailleurs, je me moque de ce que pensent les fées. Et celle-ci plus qu'une autre. Eh bien, si c'est là votre dernier désir avant notre mariage, il sera satisfait. Vous aurez la peau de cet âne, ce soir même.
Peau d'âne, ça c'était une évidence, Nicolas et Lydia. Oui. Lydia. Vous faites vous signe, oui.
Oui, tout à fait, c'était une évidence. Moi, je l'ai vu trop tard, ce film, et j'aurais aimé le découvrir plus jeune, donc voilà.
Mais oui, non, Nina, ma fille, évidemment, Peau d'âne faisait partie de ces films cultes. C'est fascinant d'ailleurs comment ce film, qui est quand même très 70, garde un pouvoir de fascination totale pour les petites filles. C'est-à-dire qu'il y en a qui font le gâteau, il y en a qui apprennent les chansons par cœur, il y en a qui font le gâteau, qui paraît-il est immangeable.
Oui. Immangeable.
Voilà. Mais je veux dire, ça reste un film qui a un pouvoir d'attraction et de fascination totale.
Dans lequel on tue un âne et dans lequel on épouse son papa.
Oui, vous dites, voilà, sous-entendu coquin, oui. C'est plus que coquin quand même, un père qui veut épouser
oui,
sa fille.
Non, mais le conte au départ est trouble. Le conte au départ est trouble.
Oui, mais
je pense que les petites filles qui le voient, comme elle échappe à cette malédiction, les petites filles qui le voient, je pense que ça parle vraiment à leur subconscient. Là, Demi disait, je veux faire un film qui enchante les enfants et dérange les parents. Et c'est exactement l'effet que ça fait. C'est-à-dire, quand on voit ce film, il est dérangeant, même esthétiquement, des fois, il est un peu dérangeant. Alors que les enfants sont enchantés par le film. Non, quand je dis qu'il est dérangeant esthétiquement, c'est qu'il fait des propositions, des fois, pour nous, ouais. Quand il peint un cheval en rouge, et c'est des vrais gestes poétiques.
Ou un vrai hélico.
Ou un hélico à la place d'un carrosse. Ce sont des gestes, des affirmations poétiques qui sont extrêmement fortes. Mais les enfants trouvent ça émouvant, merveilleux. Donc, c'est une vraie réussite du cinéma fantastique français.
Ouais. Au début, je disais, c'est difficile de conseiller, moi, quand on me demande, est-ce que je peux montrer ce film à mon enfant ? Je ne sais pas comment l'enfant est éduqué. Je ne sais pas ce qu'il a reçu comme valeur. Donc, je peux indiquer un film qui va énormément le choquer. Comment on fait ?
Ben, en fait, nous on est parti sur des bases de ce que nous avons montré à nos enfants, ce que nous avons montré à nos enfants.
Mais vos enfants sont vos enfants,
mais oui, mais c'est pour ça que dans les textes, on s'est forcé de dire attention. Par exemple, dans L'homme qui rétrécit, attention aux enfants phobiques. Il y a une séquence avec une araignée. On s'est forcé, comme ça, dire attention. Le premier quart d'heure est un peu lent.
Oui, de donner quelques clés.
Voilà, donner quelques clés pour la découverte. Et voilà. Donc après, la seule chose qu'on n'a pas pris en compte, on a fait très attention sur tout ce qui est la peur. À part King Kong, mais King Kong c'est plus un film de monstre, c'est presque un blockbuster avant la lettre, mais on n'a pas mis de film d'épouvante parce que la peur c'est vraiment à chaque parent de savoir quel est le degré de terreur qu'il peut gérer vis-à-vis de ça. Est-ce qu'on peut montrer Frankenstein à un enfant de 7 ans, le premier Frankenstein? Oui. Ben, c'est à chaque parent de décider. Donc on s'est dit, à 3, 8 ans, 9, 12 ans, on pourrait commencer à faire du cinéma fantastique d'épouvante, mais là on s'est...
Est-ce qu'il faut parler avant, finalement? Est-ce qu'il faut leur faire comme un mini-ciné-club, une présentation?
Tout le Jean-Philippe.
C'est pareil, hein, c'est en fonction des enfants. Y a des enfants à qui il n'y a pas besoin de teaser le programme du film. Et on sait qu'ils aiment une thématique et c'est l'occasion pour eux de... Ils peuvent aussi choisir dans le livre, eux-mêmes, sur les vignettes, sans même avoir de commentaires à faire. Chaque famille peut s'accaparer complètement.
Oui, c'est ça. On a essayé de faire des recherches graphiques pour que, si les parents lisent les textes, tiens, ça peut plaire à mon enfant. Les images qu'on a choisies, les enfants puissent les regarder, qu'elles soient suffisamment symboliques pour dire, tiens, j'ai envie de voir ça. Et c'est ce que nous ont dit les premiers lecteurs. Il y a des enfants qui disent, tiens, j'allais voir ça. Une petite fille, comme par hasard, choisit la mélodie du bonheur. Donc, sur la photo.
Ou Mary Poppins.
Voilà.
Très beau choix, c'est le premier film d'un très grand cinéaste. Il s'appelle Joseph Losey. Et c'est Le garçon aux cheveux verts.
Hey, Gramp!
Hi, lad.
I've got green hair.
You have what, lad?
Green hair.
That's nice. Hurry up and get dressed now, lad.
Boy, some surprise. Gramp, how many other people in the world have green hair?
Not another single one.
Il n'existe pas en français, ce film.
Non, il y a deux, trois films, malheureusement, qui n'existent pas en français. Il y a Le jeudi d'Inorizzi, il y a Bonjour de Yasujiro Ozu et Le garçon feu vert. Mais c'est des tellement jolis films. Et comme ils s'adressent plutôt aux 8 ans, on est parti du principe qu'on pouvait mettre ces trois films-là en VO. Ce qui était important pour nous, c'est que les films soient signés. C'est-à-dire, on est dans une époque où les images ne sont pas signées. C'est-à-dire que la télévision, plus rien n'est signé, les génériques de films passent à 200 à l'heure. Sur Netflix, quand vous regardez un film, ils dégagent le générique pour envoyer la bande-annonce du film suivant. Les films qui sortent en salle pour enfants, je ne sais pas qui a fait Le Monde Secret des Emojis ou Capitaine Super Slip, je pense qu'il n'y a pas un spectateur qui a vu ces films qui peut citer leur nom. Et nous, on s'est dit, le cinéma, c'est la signature. Chaque film est signé par un metteur en scène. Et donc, on s'est efforcé de
De quoi?
Ben de ne prendre que des films qui soient des films de metteur en scène ou de producteur.
Oui. Et d'ailleurs, il y a une énorme signature japonaise. Il s'appelle Miyazaki. Alors vous avez choisi Mon voisin Totoro. Et ben nous, on a choisi
Mon voisin Chihiro. Voilà.
C'est la carte d'adieu de mes amis. Chihiro? Est-ce que c'est moi? Oh! Est-ce que c'est mon vrai nom?
Yubaba vole nos noms pour nous tenir en son pouvoir. Ici, tu t'appelles Sen. Ton vrai nom doit rester caché dans ton cœur.
Heureusement que je ne l'ai pas oublié. Je me serais appelée Sen à tout jamais.
Ceux qui se sont fait voler leur nom ne peuvent plus jamais retrouver leur chemin. Je suis devenu prisonnier depuis que j'ai oublié le mien.
Tu ne sais plus comment tu t'appelais?
Non, mais ce qui est bizarre, c'est que je me souviens très bien de toi. Tiens, mange. Il faut que tu récupères.
Non, merci.
Tu as besoin de reprendre des forces. Je les ai ensorcelées pour toi. Allez, mange.
Ça va en VF, le voyage de Chihiro? Oui.
Oh oui.
Qu'est-ce qu'il a apporté Miyazaki? C'est énorme ce qu'il a apporté au domaine des films d'enfants, d'adultes, de magie, de grâce.
C'est une planète entière pour les enfants, pour les parents, les grands-parents. Enfin, ça parle absolument à tout le monde. Et on a choisi Totoro plutôt que Le Voyage de Chihiro, qui est sublime, hein, Le Voyage de Chihiro, mais qui, pour nous, est un peu pour les plus grands. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des séquences qui ont traumatisé les enfants, notamment la transformation des parents en cochons.
Alors que, en fait, on en rêve tous, mais bon, voilà.
Voilà, c'est ça. C'était un peu plus grand, en fait. Et Totoro est le film absolu par lequel on pourrait commencer toute cinéphilie si on ne la commençait pas dans la chronologie.
Avec une chanson titre qui rend fou.
C'est un film doudou.
Oui,
exactement. Totoro. D'ailleurs, au Japon, c'est une star absolue. Il y a des statues Totoro. C'est un film doudou. C'est-à-dire pour les parents comme pour les enfants. Et puis, Miyazaki, il a quelque chose, quand on regarde ses films, pour moi, il y a quelque chose de mystérieux. C'est-à-dire qu'on regarde ces films, il y a toujours un moment où on se dit, mais ça tape où dans mon cortex? Dans quel paysage je suis? Il y a très peu de metteurs en scène. Fellini avait ça, mais on a l'impression d'être quelqu'un qui nous retransmet ses rêves en direct. Et il y a quelque chose de profondément mystérieux pour moi dans son cinéma. C'est-à-dire, je ne sais pas d'où ça vient. Et comme le gars, en plus, est shintoïste, c'est-à-dire que sa religion, c'est qu'il y a des esprits partout, des esprits dans les pierres, des esprits dans les gobelets, des esprits dans les animateurs télé, radio. Je veux dire que, du coup, son cinéma est totalement fait d'un pays, mais d'une spiritualité qui nous échappe un peu et qui crée quelque chose de vraiment magique.
On va conclure avec un film qui n'est pas dans le livre, même s'il est cité. C'est un film énorme, c'est un film unique d'un metteur en scène qui n'a fait qu'un seul film. C'est La Nuit du Chasseur. Alors c'est un film qu'on a, paraît-il, très envie de montrer à ses enfants, mais on a très peur de leur montrer en même temps.
La Nuit du Chasseur. C'est le film qui nous a aidé à situer l'âge de notre C'est-à-dire, nous, on s'arrête au CE2. Or, on ne montre pas un CE2, La Nuit du Chasseur, qui commence sur le cadavre d'une femme et qui raconte l'histoire d'un assassin psychotique tueur de femmes qui va assassiner la mère de deux enfants pour pouvoir leur voler l'argent qu'ils sont censés avoir. C'est-à-dire que c'est vraiment un film qu'on s'est dit qu'on montrerait davantage à des CM2 éventuellement, et encore une fois en fonction de chaque parent. Donc c'est un peu le film frontière entre le film pour les enfants et le film sur les enfants pour les un peu plus grands.
Qui annonce le livre suivant?
Oui.
Nous, au départ, on n'a pas vocation à écrire ce genre de livre. C'était juste par cette envie de transmission. Donc après, évidemment, si le livre devait plaire à un public, forcément, même si ça nous fait beaucoup de travail, parce que par ailleurs, on fait des films, c'est vrai que c'est tentant de se dire 9-12 ans.
100 grands films pour les petits chez Arte Édition.
Et Grunes d'édition.
Ouais, il y en a tant d'autres. On se retrouve après Roméo Elvis pour les sorties.
Une de perdue. Autant dire les choses comme elles sont, qu'il y aura quand même de la peine, tant qu'on se rappelle de la veille. Et j'étais pas dégoûté, mais tu m'auras donné raison, à vouloir faire de la merde, t'avais le pouvoir de l'admettre.
Et toujours paré pour les excuses. Désolé mais toutes mes excuses. C'est mieux que toi. La tête pourtant posée sur son plexus. Y'a des fuites comme dans une écluse.
Tu sais très bien.
Et y'a des fuites même dans les églises. J'étais pas vraiment un mec lisse. Plusieurs fois j'ai considéré ça comme un versus. Alors qu'il fallait un mec pisse. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Quand on a cessé d'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. Quand on a cessé d'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille.
Et là t'es où, tu fais quoi, t'écoutes mes textes. J'en suis certain car les jalouses sont toutes les mêmes. Sous mes airs j'en souffre encore. Courant d'air dans parcours en or. Avec qui tu sors, avec qui tu sais. Pourquoi ça m'intéresse. Mon talent m'a rendu célèbre, le pouvoir ça rend fêlé. L'amour ça rend bête, ça prendra toute l'énergie sans même faire de parenthèse. Pourquoi tu réponds pas, je sais que t'entends les appels. J'arrive pas à croire que t'es réussi à tout zapper, hein. De façon minable, on dirait les personnages qui font de la course à pied. Ou peut-être que c'est moi qui suis parano. J'ai trop fumé de pétard et je veux finir à l'alcool. Commencer la soirée comme faisaient les Ramones. Et la finir éclatée, partir comme un petit rameau. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne. Venu me sentir. Quand on a cessé de m'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. Quand on a cessé de m'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille.
On fait des cadeaux, je disais. Mais avant de faire les cadeaux, on parle des films et notamment d'être vivant et le savoir. C'est vrai qu'on a reçu Alain Cavalier la semaine dernière, mais on en reparle un petit peu, Laurent.
Bah oui, le filmeur poursuit, comme il s'appelle lui-même, poursuit son exploration quoi de lui, de ses gouffres intimes, de ses abysses, en l'occurrence là, son rapport à la mort. Et c'est une fois de plus un film extrêmement bouleversant, extrêmement touchant, qui nous fait toucher du doigt certaines choses, comme ça, certaines. Tout à l'heure, on parlait de Miyazaki. Il y a certainement du Miyazaki chez Cavalier.
La Palme d'Or, Parasite de Bong Joon-ho. Nous sommes-nous emportés à Cannes devant ce film? Avons-nous exagéré ses qualités dans un enthousiasme aveugle propice à ce genre de manifestation? Pour vérifier à froid, je suis allé revoir Parasite le jour de sa sortie, mercredi, dans une salle pleine au Max Linder à Paris, pour ne pas le citer et pour le citer. Et cette deuxième vision m'a ravi tout autant que la première. Et même en connaissant l'issue, la résolution de cette histoire, j'ai pu encore mieux me concentrer sur la mise en scène vertigineuse et la construction implacable de son scénario. Un plan fomenté par une famille pauvre pour parasiter une famille riche, dans une succession de surprises, d'accidents, de suspens, jusqu'à cette fin dantesque, sur un ton comique, parfaitement amoral et complètement jouissif. Ou comment réussir un film sur la lutte des classes sans ne jamais appuyer le message, presque un ton à l'italienne des comédies affreuses, sales et méchantes, Matinée d'un Chabrol dans ses meilleurs jours. D'ailleurs, j'ai revu cette semaine Que la bête meurt, et Bong Joon-ho s'en inspire. Affreux, sales et méchants, oui, des deux côtés de la barrière sociale, dans les hauteurs comme dans les bas-fonds, en Corée ou ailleurs, parce que son propos est universel. C'est pour cela, et pour ses grandes qualités cinématographiques, pour ses films de genre dans son film, qu'il ravit et le jury et la presse, et déjà le public. 83 000 entrées en deux jours. Rarement une Palme d'Or aura fédéré à ce point. Parasite de Bong Joon-ho.
Oui, il faut le voir impérativement.
Les Particules, c'est une première fiction de Blaise Harrison. P.A., c'est Pierre-André, un ado décalé, on va dire, qui vit en pays de Gex à la frontière accélérateur franco-suisse à 100 mètres sous ses pieds, le LHC, l'accélérateur de particules le plus puissant du monde, qui provoque des collusions de protons pour recréer les conditions d'énergie du Big Bang. Et PA commence à observer des phénomènes étranges et surnaturels, genre drame fantastique, mais aussi récit initiatique.
Ouais, enfin c'est un film de genre sans grand genre, c'est ça le problème, parce que où est l'angoisse que devrait générer tout ce que vous venez de dire, hein, quand même, avec ça on devrait être terrorisé, avoir peur, c'est pas le cas du tout, c'est très souvent poseur, très souvent bavard, finalement, moi je n'ai retenu du film qu'une seule chose, qui n'est pas si négligeable que ça, c'est son acteur principal, il s'appelle Thomas Dalloz, et alors lui, il est tellement absent et présent à la fois que un peu d'angoisse, un peu de choses derrière sourd de son personnage. Mais c'est hélas, la seule qualité qu'on peut reconnaître au film.
Piranha, c'est pas un film de requin, c'est de Claudio Giovanesi, quoique, et adapté du livre de Roberto Saviano. Naples, Nicolas et ses amis ont entre 10 et 15 ans, ils se déplacent à scooter, sont armés, fascinés par la criminalité, ils ne craignent ni la prison ni la mort, leur modèle, les parrains de la Camorra, leur valeur, l'argent et le pouvoir, leur ambition, quitter Naples, quel qu'en soit le prix, enfin je vais dire, posséder Naples, pardon, quel qu'en soit le prix. Portrait de cette jeune relève, mafieuse, chronique de leur quotidien, et qui semble juste partout, quand on connaît le travail approfondi de Saviano, qui a d'ailleurs coécrit le scénario. Sacré distribution aussi, fruit d'un casting sauvage dans les ruelles de Naples et de sa banlieue. Le reste, un récit d'apprentissage bien mené, mais bizarrement sans véritable tension ou de scènes frappantes comme dans Gomorra, adapté du même Saviano. Question de manque de point de vue, de choix de cadre, de rythme de montage, de cinéma peut-être.
Certainement.
Salaud de pauvre de Christophe à l'évêque et consort, on va dire, un film à sketch, écrit donc par 12 auteurs, des histoires courtes où sont dévoilées toutes les fissures du genre humain, Laurent.
Oui, bah, Salaud de pauvre, c'est une interpellation qu'on retrouvait dans la traversée de Paris en 1956, chez Coluche en 1980, elle est toujours d'actualité dans sa charge, alors ces 10 sketchs sont hélas très très inégaux, c'est le principe du genre, on retiendra quand même celui de Patrice Lecomte qui ouvre, celui de Nadia Koslovski Bourgade, et puis un dont j'adore le titre, parce que en plus le titre est programmatique, c'est une association qui s'appelle Les Petits Frères des Riches. Ça c'est très drôle, et vraiment, alors là pour le coup c'est en plein cœur de cible, et c'est dommage que l'ensemble du film et l'ensemble des sketchs ne tiennent pas cette note-là.
On va finir par une reprise de deux comédies de Nanni Moretti.
Mais oui, 1984 Bianca, avec un prof déboussolé, et 1985 La Messe est finie, avec un prêtre déboussolé cette fois.
Et peut-être aussi une autre reprise peut-être pour les enfants, La Cité de la Peur.
Il y a pas mal de jeux de mots et de...
Oui, c'est vrai.
On y vomit beaucoup quand même. On attendra un peu, le prochain livre.
Juste un doigt, bon.
Ouais, oui, voilà, il y a quand même quelques allusions.
Ah, tant qu'il court, on évitera.
Oui, c'est vrai. Le Festival du film romantique de Cabourg, 33e édition à partir de mercredi prochain et jusqu'au 16 juin. 7 films proposés au jury, présidés par Sandrine Bonner, des œuvres de Finlande, d'Angleterre, du Mexique, de Thaïlande, d'Argentine et de France. Et puis, Annecy, le grand festival du film d'animation qui s'ouvre lundi prochain jusqu'au 15 juin. 200 films en sélection officielle, un énorme marché. Honneur à l'animation japonaise, on en parlait. Un cristal d'honneur pour Jean-François Laguioni. Des avant-premières, La Reine des Neiges 2, Toy Story 4, Playmobil. Et dans cette compétition aussi, J'ai perdu mon corps, Les Hirondelles de Kaboul, la fameuse immersion des ours en Sicile. Et une pure merveille, Buñuel avant l'âge d'or, de Salvador Simo. Il sort le 19 juin. Je vous jure, on en reparlera de ce film. Laurent, maintenant,
un cadeau global. Vous répartirez les choses, vous les échangerez ce soir chez vous, vous faites comme vous voulez. On vous offre d'abord Glamador, L'île des chevaux perdus. Glamador, c'est tout simplement la suite. Alors, vous n'en parlez pas, mais c'est un peu normal parce que c'est passé quand même assez inaperçu. La suite de Crin blanc, dont vous parlez, qui est un sublime film camargué. Palme d'or du court-métrage d'ailleurs en son temps, et là 2 ans après, eh bien Denis Colomb de Donnant retourne une sorte de suite, et c'est un merveilleux petit ouvrage sur ce film qui n'a pas les qualités de Crin blanc, mais quand même on était content de vous trouver cette suite là qui pourrait être notée dans une prochaine réédition de l'ouvrage, bien évidemment chez
Incroyable.
Chez l'Est cool. Sud.
Super.
Et alors ça, c'est pas pour les enfants. Network de Sidney Lumet. Ah, c'est pas pour les enfants, mais c'est magnifique.
C'est magnifique.
Magnifique. Ouais, un film sur l'infospectacle. Ouais, ouais. Hein, visionnaire. Il a été fait en 1976 et il n'a rien perdu de son acuité. C'est un merveilleux coffret collector de chez Carlotta avec un livre de 200 pages en plus.
Super, voilà. Nous l'avons revu il y a un mois.
Il y a pas longtemps, là.
Alors ça va.
Faye Dunaway dedans.
Super. Extraordinaire.
Magnifique film.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup
merci à
tous les deux. Merci Lydia et Nicolas Boukrieff. Et merci pour ce livre indispensable pour les parents sans grands.
Film
pour les petits de Max Linder à la Tortue Rouge chez Arte Éditions. On se retrouve la semaine prochaine. Et on vous laisse le générique à tous les deux. Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des monteuses.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Hugo Combes s'est occupé de la préparation.
C'est une émission réalisée par Céline Hila.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Lydia Boukrieff, j'y étais.
Et moi, Nicolas Boukrieff, j'y étais.